Bonjour et bienvenue dans Starting Block. Aujourd'hui, Radio Campus Paris s'intéresse au boom de la scène garage rock parisienne en allant à la rencontre des labels Alling Banana et du groupe Trouble Jack.
Ça fait combien de temps que tu es actif sur la scène garage à Paris?
J'ai monté le label en 2011, je crois. Au début, je faisais surtout des concerts et beaucoup de groupes étrangers, en fait, pas forcément des groupes parisiens. Donc ça fait peut-être un an, un truc comme ça, que j'organise beaucoup de concerts pour des groupes parisiens, que je sors des disques aussi de groupes plus du coin et qu'on a plus l'impression qu'une scène se crée.
Du coup. Et cette scène, du coup, elle sort d'où? Est-ce qu'il y a une espèce de revival du garage depuis quelques années à Paris ou est-ce qu'elle a toujours été là?
Il y a toujours eu une scène garage à Paris et en France. Je pense qu'il y a une nouvelle scène là qui a éclos depuis 2 ans, quelque chose comme ça. Je pense que c'est des retombées de toute cette... engouement aux États-Unis pour la scène de San Francisco, Ty Segall aussi, c'est arrivé un peu en décalage en France. Il y a beaucoup de groupes qui ont digéré ça et qui depuis un an ou deux commencent à se lancer dans ce créneau un peu, je pense.
Première sortie chez Alling Banana, c'était Trouble Jack. Et là, donc, ils viennent de sortir leur deuxième EP chez toi. C'est un groupe auquel tu te sens, avec lequel tu te sens proche, parce que justement, ils sont sur Paris par rapport à Caviar Spécial qui est sur Rennes et Dust Image qui est sur Melun, qui est quand même assez loin, Melun. Est-ce que tu penses que c'est genre un groupe qui représente bien ton label?
Ouais, je pense. C'est vraiment un groupe maison, parce qu'ils sont là depuis le début et qu'on a des projets au long terme, parce qu'on a déjà pas mal parlé de sortir un album plus tard dans l'année. C'est un des groupes que je vois le plus comme un groupe qui suit le label et qui se développe en même temps. Je vois bien la différence, par exemple, entre le premier EP et le deuxième. Le label et le groupe se sont beaucoup développés entre. On a un accueil qui est super, super positif sur le deuxième EP, même si le premier c'était déjà très bien. Donc oui, c'est clair que c'est un des groupes principaux maison. Et puis comme ils sont à Paris, je les vois très souvent. J'étais allé avec eux en studio. Pour enregistrer le EP qui vient de sortir, ce sera probablement la même chose sur le LP, donc c'est sûr, c'est un groupe dont je suis assez proche.
Et vous, Trouble Jack, vous vous sentez vraiment proche du coup de Alling Banana, parce qu'il fait quand même pas mal de choses pour vous?
Ouais, c'est sûr, on se sent très proche aussi de Alling Banana, parce que du coup, sans Alling Banana, je pense qu'on n'aurait pas sorti de vinyle en fait. Enfin, pas le deuxième, je pense. Donc du coup, ouais, forcément, ça nous aide à sortir des vinyles et tout ce qui est trouver des dates et tout. Enfin, ça nous a vachement aidé à se développer, en fait. Donc c'est vachement cool, ça nous fait faire des concerts un peu partout et tout. Donc ouais, pour nous, c'est génial, quoi.
Alors tes concerts, tu les organises où la plupart du temps à Paris? Dans quel lieu?
Beaucoup à la Mécanique Ondulatoire. J'ai fait quelques concerts aussi au Gibus Café, qui a ouvert il y a pas longtemps. Et à l'Espace B, même si ça fait quelques temps que j'ai pas fait de trucs là-bas. Dans des salles de maximum capacité 200 personnes, c'est des petits lieux, c'est des publics assez restreints, quoi. Surtout pour les groupes locaux, ils ramènent souvent des potes, donc ça remplit pas des très gros lieux, quoi.
Et en parlant des salles de concert du coup à Paris,
pour quelqu'un qui débarquerait à Paris, qui serait branché garage, est-ce que vous serez capable de faire un petit tour d'horizon rapide des salles de concert où il faut absolument traîner?
La mécanique ondulatoire,
ouais, la base, quoi.
Surtout, je pense. Après, il y a l'espace B, qui est cool aussi. Après, je sais pas, tu verras tes trucs.
Non, ouais, l'espace B, parce qu'il y a Gone With The Wind là-bas, qui organise des super concerts de grosses têtes d'affiche garage, quand même, comme les Dead Ghost, il y a Apache qui joue dans pas longtemps. Et je pense que c'est les deux principaux lieux pour un certain garage, si tu veux, pour des groupes en développement, des groupes assez jeunes, qui ramènent des publics, du coup, de capacité maximum 200. Mais après, pour des gros concerts, il faut plutôt suivre peut-être des organisateurs. Il y a beaucoup de choses qui se font au Point Éphémère, à la Maroquinerie, mais pour des groupes plus importants, quoi, comme les Black Lips, etc. À Main d'œuvre aussi, il y a la Nuit Salée Sauvage, il y a des concerts régulièrement de très très bons de garage. Et voilà, après il y a des toutes petites salles aussi qui se développent. Quand il y a de Belleville, à un moment, il y avait une super prog, quand Inch'Allah s'en occupait pendant 6 mois, il y a eu vraiment beaucoup de concerts. Donc les lieux aussi dépendent des organisateurs, à part peut-être la mécanique ondulatoire où vraiment le programmateur cible le garage dans sa, voilà, c'est vraiment dans sa direction de programmation, mais ça dépend, ouais, beaucoup des organisateurs, je pense. Ouais.
Destimush est un groupe de Melun, donc, qui a déjà sorti 2 cassettes sur un label américain, un peu bizarre. Mais, et donc que Tom, tu vas signer sur Rolling Banana, et donc dont tu vas faire un premier EP et ensuite un LP. Et on peut parler déjà du EP qui va bientôt sortir.
Ouais, du coup, effectivement, ils ont sorti 2 cassettes sur un label un peu escroc, en fait, où ils ont galéré, ils ont dû refaire les cassettes eux-mêmes. Mais c'est un groupe qui est très volontaire et ils font tout eux-mêmes, le merch, les clips, etc. Donc ils ont dû trouver le label eux-mêmes et ils voulaient sortir un truc, ils l'ont distribué avec leurs propres moyens. Et du coup l'idée c'était à la base de sortir un LP, donc avec des morceaux inédits qui étaient sortis nulle part. Mais le groupe, et là, je les suis là-dessus, était plutôt partant pour sortir d'abord quelque chose qui regroupe un peu tout ce qu'ils ont fait avant. Histoire de, voilà, de fermer une porte et de passer à autre chose avec le LP où il y aura plutôt des inédits. Et du coup, voilà, on sort un EP 12 pouces avec une compilation de ce qu'ils ont sorti sur les cassettes qui sont sorties avant. Il y a quelques inédits, il y a des trucs qui ont été réenregistrés, donc c'est quand même un objet neuf avec de la nouveauté dessus. Mais oui, l'idée c'était ça, c'était de partir de quelque chose pour pas effacer tout ce qu'ils avaient fait avant.
Voilà, quand vous êtes un groupe, vous allez faire un concert, vous en faites plein à Paris. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes souvent payé, par exemple?
Bah, quand on joue à Paris, ça se passe... Enfin, on n'est pas souvent très payé à Paris parce qu'on vient de Paris, donc du coup, il n'y a pas d'effraiement, etc. Après, quand on va jouer dans le reste de la France, là, on a quand même des cachets et tout ça. Le mieux, c'est de jouer en Suisse. Là, c'est super. Alors, en plus, non, mais vraiment, l'accueil est vraiment génial en Suisse. On a joué 2 fois en Suisse, c'était vraiment super cool. Après, à Paris, pour être payé, c'est un peu plus compliqué. Donc, ouais, on gagne de l'argent en sortant des disques et un peu en faisant les concerts, mais surtout aussi pour payer l'essence. Et donc, ouais, on est surtout amateurs, comme tu dis, quoi. David et Kevin, ils travaillent chez McDo, donc je pense que ça veut tout dire, quoi.
Et du coup, toi, Tom, t'organises aussi plein de concerts. Et là, par rapport à ça aussi, au niveau thune, quoi, tu te fais pas vraiment d'argent, si j'ai bien compris.
Non, sur les concerts, pas du tout. C'est le but, c'est de payer les groupes. Donc des fois, c'est de ma poche quand il faut compléter ce qui était prévu à la base. Donc non, non, c'est pas du tout. Les concerts, c'est vraiment pour le plaisir. L'économie du label, elle tourne avec les ventes de disques surtout.
J'ai l'impression que personne n'est payé ici, à part Julia, toi, du coup, pour organiser des concerts quand même. Est-ce que du coup, c'est plus vous faites ça parce que c'est genre votre passion, quoi. Ça vous plaît d'organiser des concerts, de jouer à des concerts. Genre, c'est juste vraiment pour... Parce qu'il n'y a pas ce genre de soirée à Paris forcément, alors c'est vous qui l'organisez pour que les gens puissent venir. Une sorte de mafia un peu.
Ouais, clairement, personne ne gagne d'argent, que ce soit les groupes, les labels, les organisateurs. Donc c'est vraiment pas le but. Le but, voilà, c'est quelque chose que tu fais par passion. C'est un hobby. C'est-à-dire que même sur le label, je me paye pas, quoi. C'est vraiment un truc que je fais bénévolement, quoi. Sinon, je ferais de l'indie pop.
Toi, t'es un Oling Banana, c'est un label qui est sur Paris, qui fait du garage. Il y en a d'autres. Est-ce que les labels parisiens de garage communiquent entre eux? Est-ce que vous êtes potes? Est-ce qu'il y a une espèce de petit réseau? Est-ce que vous tenez des tuyaux pour sortir des vinyles et tout ça?
Même en dehors de Paris, je pense, même en France et à l'étranger, en fait, tu te retrouves autour d'esthétiques communes. Et voilà, j'ai fait une coprod avec Asbin Records, qui a été monté par des mecs de Régal. C'est des gens avec qui j'aime beaucoup travailler. On a une ligne, je pense, assez semblable sur les sorties. On s'y retrouve beaucoup. T'as Croque Macadam, qui est bon, pas de Paris, mais de Montrouge, c'est juste à côté. Même chose, on va faire une coproduction un peu plus tard dans l'année. Il y a beaucoup de petits labels, Rota Records, Arène, avec lesquels je bosse. Tu sens, on s'échange des groupes pour des dates dans nos villes respectives. On s'échange des disques pour nos distros. Mais c'est comme pour les groupes, en fait, c'est comme ça que tu construis une scène, je pense. C'est avec des acteurs de la scène et des groupes qui s'entraident et qui se retrouvent dans ce qui sort, dans la musique, et qui partagent des trucs, quoi.
Alors, il y a pas longtemps, Je lisais un bouquin sur la scène alternative française dans les années 80, avec pareil, plein de groupes qui sortaient des petits trucs, des vinyles avec pas beaucoup de pressage. On avait beaucoup de concerts organisés par les mecs, les mecs qui faisaient jouer les groupes, c'était les potes à chaque fois, etc. Et c'est une scène qui a donné des groupes comme y avait Panic, Ludic 88, Les Beurreries Noires. Et j'ai trouvé en lisant ce bouquin que je pouvais comparer ça à ce que vous faisiez actuellement, parce qu'on a des gens qui organisent des concerts, des petits concerts, on a un public qui est tout le temps le même, des petites sorties, le public qui achète les vinyles. Est-ce que vous connaissiez cette scène? Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans cette scène-là aussi, de cette façon de faire?
Alors, je ne connais pas particulièrement cette scène-là, mais je pense que toutes les niches et les scènes locales se créent de la même façon, avec des connivences au niveau des goûts musicaux, avec des amitiés. Et je pense que c'est toujours sur le même fonctionnement, que ce soit du reggae, que ce soit de l'électro, ça fonctionne pareil. Quand tu n'as pas de thunes, tu es obligé d'avoir des potes qui peuvent t'aider avec des contacts. Donc, toute scène se construit comme ça. Je pense que c'est. Voilà, j'ai lu pas mal de bouquins aussi comme ça sur des scènes dans les années 90 à Détroit ou autre, et ça se crée toujours de la même façon. Ouais.
Est-ce que tu considères ça un peu comme un exemple à suivre? Cette scène, par exemple, que tu disais aux States?
Pas plus que ça, je pense que ça se fait naturellement en fait. Tu rencontres des gens, tu deviens pote avec eux. Si tu voilà, si c'est un groupe que tu aimes bien, tu vas essayer de l'aider, et inversement. Donc, je pense que ça se. Si toutes les scènes fonctionnent comme ça, c'est parce que ça se fait naturellement. En fait, t'as pas besoin de t'inspirer du fonctionnement d'une autre scène pour te dire, tiens, il faudrait que je me fasse des potes pour faire avancer mon groupe ou mon label. Tu vois, ça se fait très naturellement, quoi.
Mais alors, au final, Travel Check et Alling Banana, est-ce que votre but, quand même, c'est de vivre de ce que vous faites actuellement?
Bah, d'abord, j'aimerais bien, mais c'est pas pour tout de suite, je pense. La priorité, en fait, c'est que le label tourne et que les groupes puissent progresser, quoi. Donc, quand on fait des bénéfices sur une sortie, c'est réinvesti directement pour que la prochaine ait un meilleur packaging sur le vinyle, ou voilà, pour pouvoir payer un groupe un peu mieux à un concert. Donc, pour l'instant, si tu veux, le fait de mettre de l'argent de côté, pour moi personnellement, c'est pas du tout à l'ordre du jour, quoi. Donc, mais ouais, bien sûr, j'aimerais en vivre, me lever le matin pour faire que ça, quoi. Connaisseurs, donc ils vont toujours te faire des chroniques où vraiment ils vont cibler tes influences, ils vont savoir exactement ce que tu as voulu faire. C'est souvent là, c'est qui me fait le plus plaisir quand j'ai une chronique positive sur un disque, c'est quand ça vient d'un blog vraiment spécialisé, plus si tu veux qu'un gros média qui va te faire une chronique en citant limite les Arctic Monkeys ou les Beatles, parce qu'ils n'ont pas les références d'ailleurs pour comprendre ce que tu as essayé de faire.
Puis c'est cool, après c'est relayé par d'autres blogs un peu partout dans le monde. Genre il y a des disques je sais plus, au Brésil. Ouais, il y en a eu au Brésil, bah du coup à Taïwan pour le premier EP de Travel Check.
Au Japon.
Au Japon, partout, au Japon. Quoi. C'est cool.
Dans le Utah.
Ça, c'est un côté très très cool des blogs aussi, c'est que ça touche un public très ciblé et qui en général achète derrière les disques. Parce que par exemple, une chronique dans Rock'n Folk, c'est pas sûr que derrière t'as des ventes, c'est super cool pour. Voilà, j'envoie le magazine à mes parents, ils sont super contents. Mais c'est pas sûr que voilà, il y a des ventes derrière. Alors qu'un petit blog, moi j'ai effectivement j'ai vendu des disques genre en Corée du Sud, au Japon, au Brésil, ça c'est les blogs. C'est les mecs qu'on a entendu parler et qui t'as le lien dans l'article pour acheter le disque sur la VPC, le mec l'achète direct. Donc ça c'est un côté très cool, ouais, des petits médias.
Les blogs qui parlent de ta musique, c'est souvent des trucs que t'as, enfin, auxquels t'as envoyé tes sorties, ou c'est des fois des trucs complètement spontanés qu'on découvert eux-mêmes?
C'est un peu des deux. Je scanne beaucoup Internet pour trouver tous les petits blogs, je les relance, je leur envoie à chaque fois les disques, donc sur des premiers contacts, ça vient souvent de moi. Je viens les chercher, mais après, une fois qu'ils ont chroniqué un premier disque, en général, c'est eux qui reviennent vers moi parce qu'ils ont vu qu'il y en a un deuxième qui avait été annoncé, ou voilà, ou juste pour prendre des nouvelles. C'est ça aussi la différence, c'est qu'un média, un gros magazine papier, si tu n'envoies pas le disque, ils vont pas forcément parler de toi, il faut vraiment que tu ailles leur envoyer l'objet avec un petit mot, etc. Alors que les blogs, ils viennent chercher vraiment l'info, ils suivent ton label au jour le jour. Toutes les petites annonces de sortie, etc., ils le font beaucoup plus de façon spontanée que les plus gros médias.
Et du coup, Alling Banana, en gros, toutes tes sorties, c'est en format vinyle, 33 ou 45. Pourquoi tu peux nous expliquer ce choix de sortir que du vinyle? Pourquoi tu ne fais pas du CD comme d'autres labels?
Alors, c'est un choix qui s'est fait très naturellement. Parce que dans la scène garage, moi, j'ai toujours acheté des vinyles, pas parce que, à la base, c'était une volonté particulière, mais parce qu'il y a des sorties que je trouvais que en format vinyle, quoi. Donc c'est pas du tout quelque chose que je défends. Enfin, si, j'aime bien le format, mais c'est pas une religion, tu vois. Je l'impose pas, je mets des téléchargements sur Internet. Moi, j'ai rien contre les gens qui téléchargent plutôt que d'acheter des disques. Je les mets souvent en téléchargement gratuit ou à prix très limité. C'est pas un truc qui me gêne, quoi. C'est pas quelque chose de doctoral chez moi, le vinyle. C'est juste que c'est un format qui fait que t'as un bel objet et en général une bonne qualité de son. Donc c'est un format qui est identitaire pour la scène. Donc c'est vrai que les gens s'y retrouvent plus. Les groupes, de toute façon, veulent faire du vinyle. Donc ça s'est fait comme ça, naturellement, le choix du format.
Et vous, les Travel Check, vous êtes quand même assez jeunes. Vous n'êtes pas du tout issus de la culture vinyle à l'ancienne, quoi. Comment vous êtes tombé là-dedans?
Bah, exactement pareil. En fait, dans le garage, on a toujours eu l'habitude, en fait, d'acheter des vinyles aussi. Les groupes qu'on aimait bien, on les achetait en vinyle, on les trouvait qu'en vinyle, pas en CD. Donc du coup, on s'est beaucoup moins intéressé aux CD, enfin pour moi. J'étais beaucoup moins intéressé par des CD. Après, le vinyle, l'objet est beau en soi, quoi. Ça te fait vraiment un bel objet. Après, on vous peint un culte au vinyle, ouais, les vinyles, c'est génial, etc. Enfin pareil, on met aussi nos morceaux en téléchargement gratuit. Et on fait des vinyles. Après, le CD, c'est quelque chose qu'on trouve pas très intéressant, parce que je trouve que c'est ça pas très beau et que c'est vraiment moi j'ai un peu de mal avec les CD par contre, mais après si les gens préfèrent avoir le MP3 sur leur iPod et qu'un vinyle, il y a aucun problème, quoi.
Voilà. Comme si un jour tu fais des trucs distribués à la Fnac, tu feras des CD.
Mais honnêtement, s'il y avait une demande, je pense que je le ferais. Si je pense que le téléchargement, si tu veux, peut suffire au public CD entre guillemets, parce qu'en général le public CD c'est pas un choix justement très volontaire, c'est parce que voilà, c'est le format le moins cher, le plus pratique, et en général, bon, pour ça le MP3, je pense que ça couvre le truc. Si vraiment je sentais que j'avais des demandes et aussi les moyens de faire des prestations CD derrière, je le ferais sûrement. C'est pas quelque chose qui me bloque. L'important, c'est que les gens puissent écouter la musique, peu importe le format, je m'en fous un peu.
Et je me rappelle aussi qu'au tout début du groupe de Travel Check, on avait pressé 50 CD ou 40, et on a vraiment mis beaucoup 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 de temps avant de les CD. Enfin, peut-être aussi parce que c'était moins bien le son, mais les gens sont beaucoup beaucoup moins intéressés par un CD, une maquette, c'est surtout quelque chose que tu donnes, etc. Donc tu peux pas vraiment vendre l'objet. Et après, à partir du moment où on a commencé à faire des vinyles, les gens sont beaucoup plus intéressés que des CD, donc du coup on a totalement mis les CD de côté, quoi.
Donc votre premier EP Wild Tropics, vous l'avez sorti en 300 exemplaires, non, je crois, 250, et il y en a plus, en fait, vous avez tout vendu. Pour vous, genre d'avoir épuisé un EP comme ça, c'est genre une espèce de gloire en soi, ou?
Bah forcément, on est super content. Quand tu as 300 exemplaires, tu te dis ouais, c'est super cool si on peut tous les vendre quoi. Comme ça fait un peu limité. Après, si on les aurait pas tous vendus, bah tant pis quoi. C'est pas forcément notre but, on n'est pas là oh, faut que ça sold out, quoi. Enfin non, on est super content de voir qu'on a tout vendu. C'est qu'il y a quand même un peu un intérêt parce que en fait quand on a reçu les 300 cartons à la base chez nous, on était un peu choqués quoi de voir 310 comme ça. Bon, tout est parti grâce aux tournées, grâce à toutes les dates qu'on a faites, etc. Et bah, le nouveau EP là qu'on vient de sortir, c'est encore mieux parti. Donc du coup, on va voir comment ça va se terminer. Mais en 4 jours, ça se passe très bien. Donc voilà.
Pour les gens qui connaissent rien, pareil, toujours en vinyle, en culture vinyle, est-ce que tu pourrais nous dire en gros combien ça coûte de faire un vinyle et comment ça se passe
Par vos chiffres.
Alors ça dépend des presseurs. Donc moi, je travaille avec un presseur. Ça me revient. C'est très variable en fait, ça dépend pour 300, mais en général pour un LP, ça coût de revient est de 5 euros par unité, je crois, un truc comme ça. Donc je le vends à 10 euros, donc t'as plus de marge. Alors que sur un EP, sur un 7 pouces, la marge est beaucoup plus limitée. C'est en gros sur un pressage 7 pouces, je les vends tous pour me rembourser, alors que sur un pressage de 12 pouces d'album, je peux faire une petite marge si je les vends tous, quoi. Mais la marge est très limitée. L'objet est justement cher à produire. Je vais faire ça, il n'y a pas beaucoup d'usines en Europe qui pressent du vinyle, donc forcément c'est pas un objet sur lequel tu auras une grosse rentabilité. Alors, il y a un presseur en France, c'est MPO, moi je passe pas par MPO, je passe par un presseur, par Conflicars, qui sous-traite en République Tchèque, je crois que c'est là-bas que sont les usines les moins chères. Mais du coup tu travailles avec leur bureau à Paris, donc c'est quand même plus simple que travailler directement avec les Tchèques. Bon. Et donc voilà, c'est un bon... Mais je vise quand même la rentabilité, mais je... cherche à bosser avec, par exemple, j'ai toujours eu un gros problème, c'est d'avoir les disques à temps pour la release ou pour le tour. Donc je bosse quand même avec des gens dont je sais qu'ils sont assez ponctuels. C'est un truc qui est vachement... J'essaie de trouver un mix, si tu veux, entre quelque chose qui est pas trop cher et quelque chose qui sera fourni en temps et en heure et avec une bonne qualité, pas des disques que tu dois jeter parce qu'il y en a qui ont été abîmés pendant la livraison, je sais pas.
Quand on y réfléchit, 300 tirages pour un vinyle, c'est pas beaucoup. Genre t'as des vinyles qui sont sortis dans les années 60 en 300 exemplaires qui aujourd'hui valent très très cher. Est-ce que dans tes rêves les plus fous, tu te dis dans 30 ans, on va creuser sur ton label et on va trouver des disques qui sont sortis, genre un travel check sorti en 300 exemplaires et que les gens vont se l'arracher à des prix hallucinants?
Ben oui, j'aimerais bien. Ça, il n'y a aucun moyen de le dire maintenant. Je pense que même, pas forcément autour du label, mais autour de la scène qu'il y a en ce moment, c'est difficile de voir comment ça sera plus tard. Genre, est-ce que Ty Segall et aussi des compagnies, dans 20 ans, ça sera devenu vraiment culte et un gros volet de la musique contemporaine de l'époque ou pas? Donc j'en sais rien, j'espère que, ouais, que les disques seront collector et qu'ils se revendront sur eBay à prix d'or dans 10 ans, mais il n'y a pas moyen de savoir.